Cette semaine, on apprenait que l'entreprise de recherche en interface cerveau-ordinateur d'Elon Musk, Neuralink, ouvrait ses portes aux Canadiens et acceptait désormais les candidatures de patients canadiens intéressés à recevoir la technologie d'assistance expérimentale qu'ils sont en train de développer. Je vous rappelle que déjà un Américain s'est fait insérer une puce informatique cosmétiquement invisible dans son cerveau. Et la semaine dernière, on a vu que le patient utilisait la puce cérébrale pour jouer aux échecs en ligne avec uniquement son esprit. Eh bien, pendant ce temps, en Europe, plus précisément à Grenoble, en France, il y a toute une équipe de recherche du CEA qui, elle, a déjà permis à un patient paraplégique de remarcher. Imaginez. Pour parler de cet exploit, de ces recherches dans le monde de l'homme assisté par la machine, on va aller rejoindre justement à Grenoble le responsable du service de recherche biomédicale en neurotechnologie du CEA Clinatech. Bonjour Guillaume Charvet.
Bonjour.
Cette semaine, quand j'ai su qu'on pouvait se parler, je me suis dit, enfin, je vais parler à quelqu'un qui est en train de créer des miracles à sa façon. Comment c'est votre travail? Comment vous percevez ce que vous faites avec votre équipe?
Alors, déjà, on ne va pas forcément créer des miracles, mais par contre, on fait de la science. Et la science, on en fait depuis une quinzaine d'années, en particulier dans le domaine des interfaces cerveau-machine. Et donc, en fait, on travaille au sein du CEA Clinatech pour le développement d'une technologie d'interface cerveau-machine basée en particulier sur un implant cérébral qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale et permettre, par exemple, à des patients en situation de handicap, des patients tétraplégiques, des patients paraplégiques, par exemple, de retrouver une certaine mobilité. Et donc, si on parle de l'actualité, et en particulier de ce qu'on peut faire dans le domaine des interfaces cerveau-machine, on a démarré en particulier des essais cliniques au sein du CEA Clinatech, il y a maintenant plus de 6 ans, avec un patient tétraplégique qu'on avait pu faire remarcher à l'époque grâce à un exosquelette. Et plus récemment, nous avions pu montrer et faire la démonstration qu'un patient paraplégique pouvait remarcher grâce cette fois-ci à la combinaison de deux technologies, une technologie d'interface cerveau-machine et une technologie de stimulation de la moelle épinière, lui permettant ainsi de remarcher de manière naturelle, simplement en commandant le mouvement de ses jambes grâce à son activité cérébrale. Voilà, c'est en quelques mots ce que nous faisons au sein du CEA Clinatech.
Mais vous le dites, ça fait 6 ans que vous travaillez là-dessus.
Alors, ça fait 6 ans plutôt qu'on est en essai clinique, c'est-à-dire qu'on a déjà, notre technologie était mature, est suffisamment mature et validée d'un point de vue des autorités réglementaires pour pouvoir réaliser des essais cliniques. Et on a démarré un premier essai clinique, c'était en 2017, et les premiers résultats que nous avons pu montrer, nous avons pu les publier dans la revue The Lancet Neurology, et ça c'était en 2019.
Et quand on regarde aujourd'hui où en est rendu vos travaux de recherche, vers où vous allez?
Alors, où est-ce qu'on en va? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille effectivement toujours sur l'optimisation de notre technologie d'interface cerveau-machine, puisque notre objectif aujourd'hui était de démontrer la faisabilité, faire des preuves de concept clinique. Nous en avons déjà fait 2, contrôle d'un exosquelette 4 membres par un patient tétraplégique ou faire remarcher un patient paraplégique. Mais aujourd'hui, on n'en est qu'aux essais cliniques de preuve de concept. Notre objectif, c'est qu'à un moment donné, cette technologie soit utilisable par un plus grand nombre de patients en ayant besoin. Alors pour ça, il reste encore beaucoup de travail. Déjà, un travail de recherche, c'est-à-dire poursuivre ces essais cliniques de preuve de concept pour permettre en particulier de réaliser ces preuves de concept sur d'autres patients, puis après réaliser des essais cliniques de plus large échelle. Et ça, on doit le faire en particulier en partenariat avec un industriel qui, lui, va pouvoir déployer ces technologies à un plus grand nombre de patients. Donc, en fait, la route est encore longue pour arriver à proposer cette technologie aux patients.
Mais la pression doit être énorme sur vous pour arriver à développer quelque chose qui, par la suite, pourra être commercialisé parce que vous donnez de l'espoir à énormément de gens. Quand on regarde vos publications, quand on regarde même les vidéos que vous avez publiées sur le compte du CEA, c'est impressionnant. Il y a des gens qui se retrouvent dans cette situation-là, qui n'avaient pas d'espoir et qui revoient une possibilité. Donc, je reviens à ma question. La pression, elle doit être énorme.
Alors, effectivement, on pourrait donner de l'espoir, mais c'est l'objectif de la recherche de manière globale, c'est-à-dire qu'on essaie de chercher des solutions à des problèmes existants et réels. Et donc, effectivement, donner un espoir, donner une certaine responsabilité. On se doit de continuer et poursuivre, bien entendu, nos travaux. Ça, c'est un point essentiel. Avec, par contre, une certaine temporalité, la temporalité de la recherche. Cela prend du temps. Il reste encore beaucoup de questions, hein, questions scientifiques, questions techniques à adresser pour que ces technologies soient les plus efficaces possibles, efficientes possibles. Et donc là, en fait, on a besoin d'équipes de recherche qui travaillent sur le sujet, mais également de financement, hein, pour pouvoir continuer à avancer sur ces recherches-là. Et bien entendu, plus il y a de financement, plus on pourra accélérer, bien entendu, les travaux qui sont menés.
Est-ce que le financement, c'est aujourd'hui, c'est un des problèmes importants?
C'est un des problèmes, bien entendu. C'est-à-dire que dans n'importe quel domaine dans la recherche, nous avons besoin de financement pour pouvoir avancer. Et bien entendu, c'est un des problèmes, mais pas que, hein, puisque il y a dans des domaines multidisciplinaires comme celui des interfaces sœurs-machines, hein, parce que par exemple, dans le cadre de ce programme-là, nous avons une équipe pluridisciplinaire composée d'ingénieurs, de biologistes, de cliniciens. Ces gens-là travaillent ensemble. Et donc, ils doivent adresser chacun des questions, des problématiques liées à leurs compétences et leur savoir-faire. Et on doit résoudre ensemble ces problèmes-là. Et l'idée, c'est que, on arrive à faire converger la résolution de ces problèmes-là au à même moment pour arriver à réaliser des preuves de concept, comme vous avez pu voir.
Des éthiciens, est-ce que ça existe dans votre groupe de travail? Comment vous adressez tout le volet de l'éthique? Parce que vous jouez, vous êtes des scientifiques, vous faites de la recherche, mais à quelque part aussi, on est dans l'ordre du presque du semi-dieu aussi.
Alors, comme vous l'avez dit, l'éthique est omniprésente de toute façon, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, pour arriver à de tels résultats, comme des preuves de concept que nous avons fait, nous avons dû réaliser des essais cliniques. Pour pouvoir démarrer et avoir les autorisations de démarrer un essai clinique, il y a des dossiers qui sont à fournir, des dossiers auprès des autorités réglementaires pour valider déjà la sécurité du dispositif, mais également les aspects éthiques et en particulier on regarde la balance bénéfice-risque. Quel bénéfice on apporte au patient et quel risque il peut encourir à, par exemple, subir une opération, parce qu'en particulier, dans le cadre de la technologie que nous proposons, nous avons un dispositif qui est implanté. Donc, notre objectif est de réduire au maximum les potentiels risques liés à l'utilisation de ces technologies. Mais pour n'importe quelle chirurgie, il peut y avoir toujours un risque, même minimal qu'il soit, est toujours là. Et donc, il y a des comités d'éthique indépendants qui valident, les dossiers que nous, déposons et donc qui valident le protocole d'essais cliniques que nous allons mener. Donc, c'est pour ça que je disais c'est omniprésent parce qu'en fait, on travaille en permanence à, réduire au maximum disons, avoir le rapport bénéfice-risque le plus optimal possible pour justement être dans les meilleures conditions pour réaliser les essais cliniques. Et donc oui, l'éthique est un point essentiel dans le cadre de la réalisation de ces essais.
Je présume que dans vos travaux, vous avez pensé à le jour où on devrait, pour une raison ou pour une autre, retirer ce système-là. Qu'est-ce qu'il y aurait comme impact sur ces individus-là?
Alors, c'est une excellente question. Et bien entendu, comme je vous ai dit, quand on va déposer les dossiers de demande d'essai clinique, c'est bien entendu, on se pose ces questions-là. Puisque, en l'occurrence, si je résume un petit peu ce que nous avons fait, hein, nous avons donc développé un dispositif implantable, hein, donc qui permet d'enregistrer l'activité cérébrale à la surface du cortex. Donc, c'est un implant qui est de la taille à peu près qui a 5 cm de diamètre, à peu près 7 mm d'épaisseur. Et l'objectif de cet implant, c'est qu'il remplace un morceau d'os qui est enlevé au niveau du crâne, bien entendu, pour placer une matrice électrode en regard du cortex moteur. Donc, en fait, il y a une craniotomie qui est réalisée. Donc, c'est cette chirurgie dont on parlait qui permet de placer les implants. Donc, l'une des questions et que vous venez de poser aussi, c'était à un moment donné, donc la première question, c'est est-ce qu'on va être capable d'enregistrer l'activité cérébrale d'une manière la plus précise possible? Et ensuite, est-ce que cette activité cérébrale, on peut l'enregistrer durant plusieurs années? Donc, ça, c'est des questions auxquelles on a répondu, c'est-à-dire la stabilité et la durabilité du dispositif dans le temps, puisque si on veut proposer cette technologie, c'est qu'elle soit utilisée pendant une durée la plus longue possible pour les patients. Là, on parle également de bénéfices pour les patients, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une implantation et ensuite, après, ça ne marche plus au bout de quelques mois. Donc ça, c'est vraiment un objectif. Je dis ça parce qu'il y a d'autres technologies qui existent où ils ont ces problématiques de stabilité dans le temps où à un moment donné, le dispositif n'enregistre pas forcément l'activité cérébrale de manière optimale au bout de plusieurs mois. Voilà, donc ça, c'était une des questions qu'on a adressées et qu'on a montrées. Et ensuite, le dernier point, c'est si les patients souhaitent, par exemple, se faire explanter, c'est-à-dire on souhaite enlever les implants, est-ce que cela ne va pas créer de dommages au niveau du cerveau? Et donc, c'est toute l'approche que nous avons menée depuis des années, c'est-à-dire qu'on a montré, en particulier dans le cadre de tests précliniques, que si on veut retirer l'implant au bout de plusieurs mois, l'implant peut se retirer très facilement, il n'y a pas d'adhésion particulière avec le cortex, et en particulier la dure mère. Alors, pourquoi ça? C'est parce qu'en fait, nous avons choisi une approche bien particulière qui fait que, en fait, notre implant a été imaginé pour être placé à la surface du cortex moteur et plus précisément sur la dure mère. La dure mère, c'est la couche qui protège le cerveau. C'est-à-dire qu'on ne pénètre pas dans le cerveau. On a limite énormément les risques potentiels d'infection. Donc, je reviens sur le rapport bénéfice-risque que nous avons discuté précédemment. Et donc, du coup, on a en pénétrant pas dans le cerveau, en ne créant pas dommage au cerveau, on limite en fait l'impact de la technologie sur la personne. Et donc ça, c'est vraiment un choix qui a conditionné nos 15 années de développement sur cette technologie, puisqu'on est sous une approche, on appelle ça semi-invasive, c'est-à-dire qu'on a des électrodes qui permettent d'enregistrer des électrocorticogrammes. Donc on vient avoir des électrodes d'un pas de 4 mm qui enregistrent l'activité cérébrale à cette surface du cerveau et qui peut être effectivement retirée si on le souhaite, si je finis de répondre à la question.
Avec ce dispositif que vous installez, est-ce que ça communique seulement dans un sens, c'est-à-dire que vous pouvez analyser des données ou est-ce que vous pourriez communiquer des informations à la personne?
Alors aujourd'hui, la technologie qu'on a développée, elle permet uniquement en fait d'enregistrer l'activité cérébrale, de la transférer vers un ordinateur qui va la décoder en temps réel. Ça, c'est un point très important. On pourra en reparler après. Et ensuite, après, ces données qui communiquent en temps réel et qui sont décodées en temps réel peuvent être ensuite peuvent commander un effecteur, c'est-à-dire un dispositif qui va permettre de redonner de la mobilité au patient. Exosquelette, stimulateur placé au niveau de la moelle épinière. Ça, c'est des exemples. Voilà, donc aujourd'hui, on est plutôt dans un schéma où on vient capter l'activité cérébrale, on en décode les intentions de mouvement pour activer des effecteurs, et le retour au patient, en fait, il se fait, parce qu'il faut dans une interface cerveau-machine, un retour, un feedback, un retour au patient. Et donc, c'est le patient qui voit l'action au niveau de l'effecteur, et c'est le patient, du coup, qui va en fonction du résultat obtenu, c'est-à-dire de l'action de l'effecteur. Est-ce que sa jambe bouge correctement? Est-ce que le bras de l'exosquelette bouge correctement? Le patient pourrait adapter en temps réel son activité cérébrale pour corriger, par exemple, le mouvement du bras pour atteindre une cible donnée. Donc ça, c'est très important, en fait, que non seulement on soit capable d'enregistrer l'activité cérébrale, mais qu'on le fasse de manière en temps réel et surtout qu'on arrive à décoder l'information dans un délai. Alors, il y a toujours forcément un petit délai parce qu'il faut arriver à réaliser les calculs mathématiques pour ça, mais un délai inférieur à 500 millisecondes qui est le temps en dessous duquel on ne voit pas de décalage, l'être humain ne voit pas de décalage entre l'intention et l'action. Et donc ça, c'est très important de le faire pour que justement le patient soit bien dans la boucle et il y a un effet de rétroaction, ces patients qui adaptent lui-même en regardant ce qui se passe. Donc ça, c'est…
Non,
Pardon, allez-y.
terminez. Non, terminez votre phrase.
Voilà. Et donc du coup, il existe, c'est ça que je voulais dire, peut-être que pour le futur, on pourrait imaginer des interfaces aux machines, on appelle ça bidirectionnel. C'est ce que à quoi vous mentionnez tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'on peut à ce moment-là réinjecter de l'information directement au cerveau. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas fait ce type de développement, mais on pense à des interfaces aux machines bidirectionnelles. C'est des recherches qui sont en cours, hein, en particulier par certaines équipes américaines, où cette fois-ci, on vient stimuler également, on peut venir stimuler, par exemple, le cortex moteur pour envoyer, par exemple, un retour sensitif. Et il y a des travaux en cours, en particulier dans certaines universités américaines, pour venir stimuler le cortex sensorimoteur et envoyer un retour sensitif aux patients quand ils vont contrôler, attraper un objet. On renvoie un retour sensitif, par exemple. Donc, ça rajoute un deuxième niveau de feedback en plus du niveau visuel.
Mais je reviens à votre système de communication que vous avez développé entre le cerveau du patient et l'équipement qu'il va utiliser pour que ça soit aussi transparent que vous le disiez. Qu'est-ce que vous utilisez comme technologie? C'est pas du Bluetooth, je présume. Qu'est-ce que c'est?
En termes, il y a plusieurs niveaux de communication et de délais qu'on peut avoir dans la chaîne. La première chose, c'est la transmission des données qui sont enregistrées au niveau du cerveau vers un ordinateur. Là, on utilise une liaison sans fil de type propriétaire. On a des délais qui sont vraiment très faibles. Et effectivement, mais le Bluetooth pourrait faire la même chose, c'est-à-dire qu'il y a des protocoles Bluetooth qui pourraient faire la même chose. C'est pas le cas ici, mais c'est pas forcément bloquant. Ensuite, après, le point le plus contraignant, c'est la capacité à décoder cette information le plus rapidement possible, c'est-à-dire en temps réel. Et donc pour ça, on a mis en place au sein du CEA des algorithmes de décodage basés sur l'intelligence artificielle, hein, des méthodes d'intelligence artificielle, du machine learning, qui sont capables en fait de pouvoir décoder l'information sur un délai inférieur, ce que je disais à peu près à 500 millisecondes. Et ça, c'était un travail qui est important que nous faisons depuis une dizaine d'années. On a plus de 25 brevets sur cette technologie. On utilise des méthodes de machine learning qui, en particulier, adaptatives, hein, qui permettent en fait de créer des modèles de décodage. Parce qu'on parle de modèles, on parle d'intelligence artificielle. Donc, le modèle de décodage, c'est quoi? C'est juste, entre guillemets, une table de correspondance qu'il y a entre l'intention du mouvement et les signaux mesurés au niveau du cerveau. Et à partir de là, du moment qu'on a le modèle de décodage, qui va en fait permettre d'identifier les signaux cérébraux correspondant à une intention de mouvement, à ce moment-là, on peut décoder le signal. Et donc, en fait, pour réaliser ce modèle de décodage, on doit tout simplement faire une étape de calibration. Calibration, c'est-à-dire, par exemple, on va demander au patient de réaliser une tâche donnée à un instant donné et on va enregistrer l'activité cérébrale. Ça permet de créer un modèle, un peu comme dans les méthodes d'IA traditionnelles où, par exemple, on va avoir des banques d'images. On sait qu'un chat, c'est un chat, un chien, c'est un chien. On va apprendre là-dessus. Voilà. Donc là, en l'occurrence, là, on le fait avec des données cérébrales et des consignes qu'on donne aux patients. Et l'objectif, c'est de réduire ce temps de calibration. On ne peut pas se permettre d'avoir des bases de données qui sont énormes. Donc en fait, tout notre enjeu était de pouvoir créer un modèle de décodage avec très peu de données, ce qui est assez rare dans le domaine de l'IA. Et c'est ce qu'on a fait, puisque par exemple, je donne l'exemple de la démonstration, la preuve de concept que nous avons pu faire lorsqu'on a montré qu'un patient paraplégique pouvait remarcher. C'était en mai dernier, en particulier, je tiens à le noter, dans le cadre d'une collaboration avec les équipes de l'EPFL et du CHU de Lausanne, on a pu montrer que ce patient pouvait contrôler. Donc, le mouvement de ses jambes, jambe droite et jambe gauche, on a pu créer un modèle de décodage en à peine 10 minutes. On a pu créer un modèle. Et après, ce modèle peut être utilisé pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et ça, c'est important parce que aussi, on a montré que les données qu'on a enregistrées étaient suffisamment stables et les algorithmes suffisamment précis pour que la performance d'un modèle de décodage créé puisse être utilisée pendant plusieurs mois sans être altérée.
Mais ces trousses de données que vous créez d'activité cérébrale, est-ce que par la suite, vous pourriez les utiliser pour quelqu'un d'autre ou vous repartez systématiquement à zéro pour chaque patient parce que les données cérébrales ne sont pas pareilles d'une personne à l'autre?
Alors aujourd'hui, on va plutôt créer des modèles de décodage dédiés à chaque patient. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on a travaillé sur le fait qu'il faut réduire la durée d'apprentissage de ces modèles de décodage. Je parlais de même moins de 10 minutes hein, pour un modèle de décodage jambe droite, jambe gauche. Donc c'est même très rapide. Et ça, pour nous, c'est important. Après, effectivement, il existe des activités de recherche hein, qui travaillent, des équipes de recherche hein, qui travaillent sur la réutilisation de modèles de décodage obtenus sur certains patients pour l'adapter à d'autres patients. Mais de toute façon, il y aura forcément une étape d'adaptation. L'idée, c'était plutôt de raccourcir encore les délais d'apprentissage en faisant ce que vous proposez, en fait, d'utiliser le modèle d'un patient pour l'utiliser pour notre patient. Mais on est plutôt dans des activités de recherche qui sont en cours. Mais aujourd'hui, rien qu'avec les résultats que nous avons, nous voyons que c'est pas forcément problématique de demander à un patient de s'entraîner, d'entraîner, de passer du temps à entraîner un modèle.
Guillaume Charvet, en terminant, vous, là, comme homme de science, comment vous percevez votre travail? Est-ce que...
Passionnant, motivant. C'est un travail qui donne du sens parce qu'on va proposer, et je parle pas que à mon nom, je parle au nom des équipes hein, de recherche du CEA Kinatech. On travaille pour pouvoir proposer de nouvelles solutions pour les patients en situation de handicap moteur grâce à des solutions basées en particulier sur ce qui est interface cerveau-machine. Et donc, oui, au sein de l'équipe, nous avons des chercheurs qui sont passionnés, qui aiment leur métier qui sont spécialistes, bien entendu, dans différents domaines. Hein. Tout à l'heure, on parlait d'ingénieurs dans différents domaines. Ça va de l'électronique en passant par du traitement du signal, de l'informatique, de la robotique. Donc, ces gens-là, ils ont des compétences et mais également des cliniciens qui vont nous aider à proposer de nouvelles solutions, des problématiques, des besoins médicaux et des neuroscientifiques, des biologistes qui vont également participer et proposer par exemple des nouvelles méthodes d'entraînement pour les patients, etc. Donc oui, on a des équipes qui sont passionnées et ça c'est très important. Et quand on voit les résultats avec des patients qui arrivent aujourd'hui à remarcher, à rebouger et à retrouver la mobilité, ben, ça donne une très grande satisfaction aux équipes.
Guillaume Charvet, je rappelle que vous êtes responsable du service de recherche biomédicale en neurotechnologie du CEA Clinitech. On vous parlait à Grenoble. Merci beaucoup d'une part pour le travail que vous faites et puis merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
Merci beaucoup. Au revoir.